Bonjour tout le monde, je vous invite à prier. Père Céleste, qui sommes-nous ? Nous sommes des petites créatures et tu es le grand Dieu, notre Créateur. Qui sommes-nous pour être en contact avec toi ? Qui sommes-nous en tant que pécheurs que tu es venu trouver, chercher et trouver lorsque nous étions perdus pour nous transporter dans le royaume de ton Fils bien-aimé ? Quel privilège, Seigneur, et merci aussi pour ce beau thème que nous allons considérer ce matin. Le monde à venir, celui que tu vas préparer et créer nouveau pour que nous puissions y habiter. Seigneur, nous te demandons une faveur en plus, que nous puissions te contempler pendant ce moment de prédication, que nos yeux spirituels puissent contempler Christ, voir sa grandeur, sa gloire, sa splendeur, nous réjouir de lui. Ce serait une grâce, ce serait un plaisir, ce serait une faveur que tu nous accorderais là. Merci Seigneur. Amen. Nous attendons deux jours. Un jour, c'est le jour de notre mort, et l'autre jour, c'est le jour du retour de Jésus-Christ. Nous avons parlé pendant ces différentes semaines du retour de Jésus-Christ, mais nous ne savons pas si le jour de Jésus-Christ va venir avant ou après notre mort. Si nous mourons d'abord, nous serons dans la présence de Dieu. Paul parle de quitter le corps pour aller auprès du Seigneur. Mais si Jésus revient avant, et c'est tout à fait possible qu'il revienne avant notre mort, alors nous ne mourrons pas, mais nous serons transformés, nous aurons directement notre corps ressuscité. Et la question de notre corps, cet aspect du corps que nous aurons, ben justement, on a encore des questions par rapport à ça et nous en parlerons la semaine prochaine. La rédemption du corps. Mais aujourd'hui, la question qui va nous occuper est qu'est-ce qui nous attend ? Nous savons ce que nous attendons Jésus, qu'il revienne, mais qu'est-ce qui nous attend ? Une nouvelle terre où la justice habitera. Et là encore, il y a beaucoup à dire. Aujourd'hui, il me faudra un peu plus de temps, parce que j'ai un monde à décrire. Et ce n'est pas rapide de décrire un monde. Notre Dieu nous a donné plusieurs images, des expressions, des paraboles, pour nous donner un aperçu de ce que cela va être. Même si ça dépasse notre compréhension, ces images peuvent nous aider justement à saisir ce qui vient. Aujourd'hui, j'espère répondre à quelques questions, plusieurs questions que nous pouvons avoir, par rapport à ce monde et au ciel aussi. Mais commençons par la lecture en Apocalypse chapitre 21. Très facile à trouver, c'est le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, et chapitre 21, c'est l'avant-dernier chapitre. Et on va lire 14 versets, Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. » Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles ». Il ajouta « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies ». Puis il me dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie ». Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint m'adresser la parole et dit « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle était entourée d'une grande et haute muraille avec 12 portes, et à ses portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Il y avait à l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes et à l'ouest 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Avant de commencer à parler du monde à venir, j'aimerais parler brièvement du paradis, le ciel d'aujourd'hui, qui est un lieu de repos. Le ciel d'aujourd'hui, Nicolas, qui est un lieu de repos. Merci. Aujourd'hui, le monde nouveau n'existe pas. Il n'est pas encore là. Personne n'y est, parce qu'il n'a pas encore été créé. Par contre, le ciel, le paradis, existe déjà. Donc quand quelqu'un meurt, que cette personne croit en Christ, son âme va au ciel. Et dans les premières prédications, nous avons déjà évoqué cela, n'est-ce pas? C'est là où sont ceux qui sont morts en Christ. Ils voient le roi. Son royaume est au ciel. Comment est-ce qu'on peut caractériser le ciel? Ben, c'est un lieu de gloire, certainement, parce que Jésus y est présent. Il a dit ceci dans sa requête au Père, en Jean 17. « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Donc là, il y a les chrétiens du passé, il y a aussi les juifs fidèles de l'Ancien Testament, Abraham, Moïse, David et beaucoup d'autres qui sont là et qui sont vivants dans la présence de Dieu. Un exemple de cela, c'est lorsque Jésus a été transfiguré sur la montagne. Vous vous souvenez, il y avait Moïse et Élie à côté de lui, qui parlaient avec lui. C'était vraiment eux, ils étaient vivants. Ils étaient là en train de parler avec lui. C'est parce qu'ils vivent et ils sont au ciel, dans cette autre dimension. Mais le ciel est caractérisé non seulement par la gloire, mais aussi sur le repos. J'aimerais juste parler un petit peu de ça. Le repos. Dieu promet le repos céleste à ceux qui sont à lui. Regardez Apocalypse 14, il sera affiché aussi, Apocalypse 14, verset 13. Puis j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce, dès maintenant, oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. » Ils sont morts, mais ils se reposent dans la présence de Dieu. Ils sont au ciel. Alors, être dans le repos, c'est quoi? Eh bien, peut-être que c'est plus intéressant, plus riche de penser à l'opposé. Être dans le repos, c'est l'opposé d'être affairé, occupé, préoccupé, agité, pressé, pompé, fatigué. Être dans le repos, c'est l'opposé d'être accablé, opprimé, surchargé, submergé de travail, inquiet ou stressé. Mais ce n'est pas l'opposé d'être vivant. Quand on se repose chaque nuit, n'est-ce pas? On se repose, ben, on est encore vivant. Et ceux qui se reposent sont vivants. Ce n'est pas l'opposé d'être actif. Vous pouvez être en vacances et être pleinement reposé, pourtant vous avez des activités. Vous faites une visite à un lieu, vous faites une promenade, pendant vos vacances, vous vous reposez, mais vous êtes encore actif. Donc quand quelqu'un dise qu'il repose en paix, c'est pas quelque chose de banal. Je sais que c'est habituel de le dire, mais c'est une déclaration extraordinaire. Il repose en paix dans la présence de Dieu. Là au ciel, les gens chantent. Nos frères et sœurs adorent déjà Christ. Les anges aussi chantent. Mais vous savez, il y a une différence entre ce que les anges chantent et ce que les gens chantent. Les anges proclament la sainteté et la puissance de Dieu. On voit cela au chapitre 4, par exemple. Mais en lisant l'Apocalypse, j'étais frappé à nouveau par le fait que les gens chantent sur des thèmes différents. Au chapitre 7, par exemple, les humains, les hommes, criaient « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Nous chantons parce que nous sommes sauvés. C'est différent. Les anges ne peuvent pas chanter cela parce que les anges ne sont pas rachetés. Il y a des anges déchus, ils ne sont pas pardonnés. Et puis il y a des anges fidèles et saints qui louent Dieu parce que c'est leur créateur. Mais nous, nous pouvons chanter. Nous qui portons l'image de Dieu, nous qui avons expérimenté le salut, nous pouvons chanter parce que nous avons été sauvés par notre Créateur, et c'est quelque chose de très fort. Nous avons été sauvés par le Fils offert en sacrifice. Alors ils sont là, ils se reposent, il n'y a plus de travaux à accomplir, le salut est accompli par Christ, et les bonnes œuvres, nous dit ce verset, les suivent. Notre investissement sur la terre a été finalement une épargne au ciel. Des trésors nous attendent. On dit souvent qu'on ne peut rien emporter de la terre. Et c'est vrai, on ne peut pas prendre nos cartes de crédit ou notre portefeuille. Pas de trésor humain. Mais ce que nous avons acquis au ciel, par notre obéissance ici, par notre fidélité, par nos prières, par nos œuvres, ces choses-là sont acquises pour nous au ciel et vont rester pour toujours au ciel. Et nous serons là avec une couronne de gloire, des récompenses pour le travail que nous avons fait. Et cela restera pour toujours. Vous voyez ce verset, les œuvres, leurs œuvres les suivent. C'est une bonne chose que nos bonnes œuvres nous suivent. Alors que vient-il après? Parce qu'on ne va pas parler que du ciel, on va parler de la nouvelle terre. Après le jugement dernier, tout sera rénové, si je peux dire ça comme ça. Revenons à Apocalypse, à chapitre 21. Et là, nous voyons la nouvelle terre qui est une habitation de Dieu. Ce qui est frappant au début, et cet aspect de nouveauté. Vous avez entendu, chapitre 21, verset 1, « Nouveau ciel, nouvelle terre ». Plus l'ancien ciel, où sont les gens aujourd'hui, mais même le ciel est nouveau et la terre est nouvelle. Et la première terre avait disparu, le ciel aussi, la mer aussi. Tout ce qui a été créé va être refait, transformé. Mais ce n'est pas quelque chose de tout à fait différent. Ce n'est pas qu'on va quitter cette terre et aller habiter sur Mars ou sur Jupiter, ce sera la terre, mais bien sûr la terre améliorée. Donc dans ce sens, il y a une planète B. Nous avons l'habitude, n'est-ce pas, de voir cette affiche lors des manifestations, surtout de la part des jeunes, on nous dit il n'y a pas de planète B. Par contre, Dieu nous promet exactement cela. Et donc j'ai demandé à l'intelligence artificielle de créer une image d'une planète B, et voici ce qu'il a fait. C'est un peu littéral peut-être, mais j'ai trouvé ça intéressant. Sérieusement, il faut prendre en compte ce que dit le Seigneur ici au verset 5. « Je fais toutes choses nouvelles. » Et le point principal de ce renouvellement de la création, c'est que Dieu peut être parmi nous. Comme au départ, vous vous souvenez, il y avait une communion entre Dieu et les hommes au départ, quand Dieu a créé le monde. La création est un tabernacle, le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Ça va être ça. Il habitera avec eux, nous dit verset 2, deux fois au verset 3. Il habitera avec eux, parmi les hommes. Nous ne serons plus éloignés de Dieu. Il n'y aura plus de distance. Sa présence ne sera pas réservée à une élite ou à des personnes autres que nous. Il n'y aura pas une classe spéciale de gens qui auront accès à Dieu. Il sera avec nous. Il sera proche de nous. Et Dieu étant en esprit, pourra être accessible partout où nous nous trouvons. Et j'aime bien cette phrase au verset 3 qui nous dit « Il sera leur Dieu ». Ça montre l'alliance qu'il y a entre Dieu et nous. Sur son peuple, il sera notre Dieu. Nous aurons une expérience riche dans la présence de Dieu. La nouvelle terre. Et c'est normal d'avoir beaucoup de questions, n'est-ce pas? Peut-être que vos enfants vous ont posé des questions, vous n'avez pas comment répondre. Que ferons-nous là-bas? Aurons-nous un boulot comme maintenant? Serons-nous ensemble? Y aura-t-il des animaux? Allons-nous reconnaître les autres? Ben oui, je pense qu'on va reconnaître les autres. D'abord, c'est vrai que Jésus, quand il est ressuscité, tout le monde ne l'a pas reconnu parce qu'il était dans son nouveau corps. Mais Élie et Moïse et Jésus restent Élie et Moïse et Jésus. On ne sera pas tous les mêmes. On sera en quelque sorte reconnaissables. On aura notre identité propre. Quel âge aurons-nous l'air d'avoir ? Une question intéressante. Pensez à ça un petit peu. C'est une chose curieuse, n'est-ce pas ? Il y a certaines personnes qu'on n'a jamais vues jeunes. Ça a toujours été des personnes âgées pour nous. Mais évidemment, à un moment, ils étaient jeunes. Et peut-être qu'on s'attendra à les rencontrer et ils vont être d'un aspect beaucoup plus jeune. Ils auront l'air d'avoir 25 ans ou 30 ans. Et nous, on les a connus à 90 ans ou 80 ans. Éphésiens 5 parle de présenter l'Église sans tache ni ride. Et donc peut-être bien que nos rides, enfin, vont disparaître dans notre nouveau corps. C'est possible aussi, et là je m'avance un petit peu, mais c'est possible aussi que ceux qui sont petits, petits de taille, petits en âge, restent toujours petits. Et il y aura des enfants peut-être au ciel, qui seront des enfants plutôt que des adultes. Alors ce sont des choses qu'on ne sait pas, qui ne sont pas révélées, mais ce que nous savons, c'est que nous pourrons boire de la source de l'eau de la vie, et nous n'allons pas vieillir au ciel. Nous allons rester dans notre état que Dieu nous donne. Alors c'est peut-être difficile d'envisager cette nouvelle terre parce que c'est évidemment quelque chose qu'on n'a jamais vu. Mais j'aimerais vous donner deux points de comparaison pour nous aider un petit peu à concevoir ce que ça peut être, cette nouvelle état, ce nouveau ciel, cette nouvelle terre. D'abord, on peut comparer avec la terre créée par Dieu au départ. Le Dieu qui va créer le nouveau monde est le même Dieu qui a créé le monde. Et comment est-ce qu'il l'a créé au début ? Comment est-ce qu'il a décrit la création ? Très bonne au départ, n'est-ce pas ? Et il a créé le monde avec une telle beauté, mais aussi avec tellement de richesse et de variété. Il ne nous a pas créés tous les mêmes. On n'était pas tous Barbie et Ken. Tous un aspect différent. On a des tailles différentes. Et puis aussi penser à la variété des animaux que Dieu a créés, des grands animaux, des petits animaux. Qu'est-ce qui nous empêche de penser qu'il n'y aurait pas de dinosaures au ciel, peut-être, ou dans la nouvelle terre, parce que Dieu voudrait nous montrer ces choses qu'il peut créer, des choses impressionnantes. Il y a eu aussi des grands projets humains que Dieu a permis dans l'histoire, qui se développent. Ne pouvons-nous pas nous attendre à ce que des choses semblables se trouvent dans la future création, peut-être avec des matériaux différents. Mais quand même, il y a une ville, il y a de l'architecture, il y a des choses qui sont de la création et qui sont magnifiques. Je pense que généralement, lorsque nous imaginons la vie à venir, vous savez ce que je pense ? Je pense qu'on l'imagine en moins bien. On pense à cette vie et à tout ce qui nous fait plaisir et puis on se dit que ce sera moins bien. Parce qu'il n'y aura pas la télé, voilà, il n'y aura pas mon équipe de foot. Et non, voilà, il n'y aura pas les mêmes choses, donc ça, on ne sera pas marié, on sera moins bien, d'accord ? Mais en fait, il faut penser différemment. Il faut se dire que ça va être comme maintenant, mais encore meilleur que ce que nous pouvons vivre maintenant. C'est ça le but, n'est-ce pas ? Alors bien sûr, il y aura des choses qu'il n'y aura pas. Il n'y aura plus d'agents de sécurité. Il n'y aura pas de policiers. Si c'est votre travail, vous devez vous refaire une formation là-bas. Il n'y aura pas de geôlier, il n'y aura pas d'ambulancier, il n'y aura pas de médecin, il n'y aura pas de pompe funèbre. Mais n'imaginons pas que la vie sera juste une grande conférence avec des files pour entrer dans les réunions et continuer comme ça, toujours des foules, ne jamais être tout seul, jamais faire autre chose qu'aller à des réunions. Non, 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 Dieu nous a créés avec une belle vie, avec tant de capacités. Et ce que nous faisons dans la vie humaine, ce sont des activités pour sa gloire, n'est-ce pas ? Et donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de faire d'autres choses pour sa gloire que d'être dans des réunions ? Dieu a créé tant de bonnes choses aujourd'hui pour que nous en profitions. Le chocolat, le café, le vin, les frites. Mais aussi les beaux vêtements coloriés, les chaussures de sport, les cheveux. Donc il pourrait bien y avoir des coiffeurs au ciel. Des architectes, des constructeurs, des gardiens de zoo, des dessinateurs technologiques, des artistes aussi. Il pourrait y avoir des exploits sportifs, pas les mêmes sports que nous connaissons, mais des nouveaux sports, des exploits sportifs. Et des moments de fou rire, des mises en scène, des choses qui pourraient nous faire plaisir. Et nous pourrons aussi explorer le monde qu'il a créé, parce que nous serons sans le limite actuel de fragilité, de fatigue et de faiblesse. Nous ne serons pas des dieux, nous serons des créatures, mais nous pourrons profiter de la création qu'il nous a donnée. Il nous donnera comme une sorte de récréation Allez-y, profitez, jouez, découvrez. Quel bon Dieu nous avons, et il nous invite. Et d'ailleurs, qui ne voudrait pas aussi se renseigner plus sur Dieu ? Dieu qui est infini, on n'arriverait pas à connaître tout sur Dieu. Et donc on voudra se renseigner, n'est-ce pas, quand on sera là. J'aimerais bien, moi, avoir un cours sur l'Apocalypse par l'apôtre Jean, qui nous explique un peu ce qu'il a écrit là. Ou un cours des psaumes avec David, ou entendre Moïse, ou Daniel raconter ce qu'ils ont vécu, ce serait formidable. Imaginez un moment où on puisse être là en train d'écouter Jésus lui-même, en train de raconter des gens qu'il a sauvés avec les gens qu'il a sauvés. Moi, je paierais pour être là. Alors, ça, c'est un point de comparaison qui nous permet d'entrevoir un peu la richesse de ce qui nous attend. Un autre point de comparaison, c'est les fêtes religieuses dans l'Ancien Testament, les fêtes religieuses de la Bible. Vous savez, la vie des croyants, les moments les plus saints, les moments les plus consacrés à Dieu, les plus spirituels, si je peux dire comme ça, c'était une vie joyeuse. Il y avait des repas, il y avait des fêtes, il y avait des chants. Et c'était un moment de joie. Jésus a désiré manger la Pâque avec ses disciples, il dit, manger l'agneau, se retrouver autour de ce festin, ce moment de repas dans lequel il a institué la Sainte Cène. Et donc, Ésaïe 25, Dieu promet qu'il prépare un festin pour nous. Écoutez simplement des extraits de Ésaïe 25. L'Éternel prépare pour tout le peuple un festin de plats succulents, un festin de bon vin. Il engloutira la mort pour toujours. Et les gens diront, voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré, qui nous sauve. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Vous voyez l'aperçu qu'on a par l'Ancien Testament, par les fêtes religieuses, c'est un moment de fête, festin, plaisir dans la présence de Dieu. Ce ne sera pas moins bien que ça. Ce sera formidable, ce sera meilleur que ce que nous avons connu ici. Ce ne sera pas une réunion sans fin. Non, ce sera une fête, un festin, un royaume, une joie indescriptible. Mais ensuite, c'est important de le souligner, c'est aussi un lieu saint, un lieu sans souffrance ni péché. Verset 4 nous fait tant de bien, n'est-ce pas ? Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. C'est parti. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, les larmes que nous avons versées dans cette vie. Parfois, c'est tellement nombreux, n'est-ce pas ? Ces larmes sont tellement nombreuses. Et la mort ne sera plus un danger. On ne sera plus en train de dire, « Oh, attention, je dois faire attention, sinon je vais mourir. » Non, on pourra s'amuser. Il ne sera plus question non plus de mortalité des autres. On n'aura pas le deuil de voir d'autres partir devant nous. La semaine passée, nous étions à une fête d'anniversaire avec Eric et quelques autres personnes d'un homme qui avait 100 ans. Un bel âge, n'est-ce pas, d'arriver à cela. Mais plein de ses amis sont partis. Et je me suis dit, il a dû faire face à plein de deuils, plein de pertes dans sa vie. Il n'y a plus de deuil là-bas, dans la nouvelle création. Il n'y a plus non plus de cris, de gémissements, de sanglots, de douleurs, la douleur chronique que certains connaissent déjà. Elle ne sera plus là. Ce n'est pas une douleur. À vie, il n'y aura plus de douleur. Ce qui existait avant ne sera plus. Et les handicaps ne seront plus. Les cannes, les lits d'hôpitaux, les appareils auditifs, les lunettes. Chapitre 22, verset 3 dit, il n'y aura plus de malédiction. Et ça, c'est quelque chose de formidable aussi. Quel bonheur, quelle différence de vivre là, où il n'y a plus de peine et plus d'angoisse et plus de difficultés, toutes les choses qui font partie de la vie courante, de la vie habituelle, que nous appelons la vie normale. Ce ne sera pas normal, là-bas ce sera autre chose. Mais non seulement c'est un lieu sans souffrance, c'est aussi un lieu qui est saint. Le verset 8 le dit clairement, quant aux lâches, aux incrédules, aux abominables, aux meurtriers, ils seront exclus. Donc le message d'aujourd'hui n'est pas que tout le monde qui voudrait être auprès de Dieu et avoir la vie éternelle peut y aller. C'est un message qui est un message qui divise. Jésus a dit qu'il va séparer les uns des autres. Être inscrit dans le livre de vie est ce qui est important. On a lu au chapitre 21, verset 8, mais aussi au verset 27, il revient sur cela. verset 27. Il n'entrera chez elle, c'est-à-dire dans la ville sainte, rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Ceux qui comptent sur lui, sur Jésus comme un agneau sacrifié, un agneau sans tache, pour apaiser la colère de Dieu. Alors si nous comptons sur lui, notre nom est inscrit dans le livre de vie. C'est là notre avenir. Mais je pense que cette division avec tout ce qui n'est pas saint, tout ce qui est du péché, doit nous parler de ce que nous aimons aujourd'hui. Ceux qui manquent le courage de leurs convictions, ceux qui aiment l'approbation des autres et donc n'osent jamais dire « je suis chrétien », retournent leur veste pour être acceptés par les non-chrétiens. Ils sont lâches et ils n'y seront pas, verset 8. Ceux qui sont cyniques, qui se croient supérieurs aux autres, ces idiots de croyants, ceux qui disent qu'ils sont athées ou incrédules, ils ne seront pas dans la nouvelle terre. Et si vos séries préférées sont ceux avec des meurtriers, l'immoralité sexuelle ou la magie, vous savez que ces choses-là ne seront pas là non plus dans la nouvelle terre. Et les mensonges, ça paraît banal, mais c'est l'opposé de la vérité de Dieu, que Dieu veut que nous ayons, que nous puissions marcher dans la vérité. Vous savez, c'est maintenant que nous devons rejeter le péché. Il ne sera pas là, dans la nouvelle terre. Mais c'est maintenant que nous devons rejeter le péché et apprendre à avoir du dégoût même par rapport à cela. C'est aussi dans cette vie que nous pouvons prendre goût au plaisir éternel. Que nous puissions avoir déjà du plaisir à être en communion avec Dieu. À développer la foi, l'amour, l'espérance et la vérité. Avoir envie de voir Dieu. Il y a un théologien baptiste qui s'appelle Wayne Grudem qui écrit sur ces vérités de l'au-delà et il a écrit une phrase qui m'a beaucoup marqué. Quand nous verrons enfin notre Seigneur face à face, notre cœur ne voudra rien d'autre. Alors il se peut que quelqu'un ici voudrait avoir la vie éternelle, ne pas souffrir après la mort, ne plus avoir les difficultés de la vie, ou peut-être que tu as peur du jugement de Dieu, d'être condamné. Mais sache que la seule façon d'échapper au jugement de Dieu est de trouver ton refuge en Jésus. Jésus n'est pas juste un billet pour le ciel. C'est le Fils de Dieu qui veut aujourd'hui déjà régner dans ta vie. Et il faut le connaître personnellement. Et donc ça veut dire que c'est individuellement que nous devons répondre à cela. Écarte pour un moment tes parents et leur foi, ton conjoint, ton frère, ta sœur, leur foi en Christ. Enlève tes amis chrétiens, enlève l'Église qui est fidèle à Christ et pose-toi la question toi, tout seul, quelle est ta relation avec Christ? Tu as entendu parler de lui, tu as chanté des vérités sur lui ce matin, c'est bien, tu as assisté à des moments de prière, mais est-ce que tu l'as aimé? Est-ce que tu l'as écouté quand tu es tout seul, toute seule? Alors je sais que les chrétiens diront « Oh, pas assez, mais je le désire. » Mais tu sais, ça peut commencer aujourd'hui. Tu peux dire « Je veux une nouvelle relation avec toi, je te donne ma vie. » Et donner sa vie à Dieu, c'est dire « Maintenant, je ne veux plus vivre pour moi, je veux vivre pour toi. » Je veux que ma vie t'appartienne. Pas seulement mon temps professionnel ou mon temps à l'église, mais ma vie privée, mes relations, mes amitiés, mon mariage, mon avenir. Je veux que tout appartienne. Et qu'en toute chose, je fasse ta volonté. Je veux vivre pour toi. Et je veux vivre avec toi. Et quand on demande cela à Dieu, il nous dit oui et il nous prend. Et c'est pour ça qu'on est à lui pour la vie éternelle. Mais la dernière partie de cette image qu'il nous donne de l'avenir, c'est la belle mariée. Verset 2, la Nouvelle Jérusalem. Alors la Nouvelle Jérusalem, c'est un beau nom pour une église, mais nous n'y sommes pas encore, la Nouvelle Jérusalem. C'est un nom aussi d'une ville sur terre, Jérusalem, mais ça n'a rien à voir avec la version à venir. Vous savez qu'il y a en Angleterre une ville que beaucoup ne visitent pas, mais qui s'appelle York. York. Il y a 200 000 habitants. C'est pas loin de mes beaux-parents qui sont là aujourd'hui. C'est une vieille ville qui a été établie par les Romains et puis qui a été construite et développée au Moyen Âge. C'est une ville normale, 200 000 habitants. Par contre, la Nouvelle York, New York, abrite maintenant 8,8 millions d'habitants. C'est une capitale culturelle, centre de commerce international, destination touristique, ville mondialement reconnue. On se rue pour aller à New York, n'est-ce pas ? Et y être, c'est époustouflant quand on y va. Eh bien, c'est une petite image. York, New York, Jérusalem, Nouvelle Jérusalem. C'est quelque chose d'extraordinairement plus grandiose que ce qu'on peut connaître ici-bas. Peut-être que quelqu'un a dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on en sait ? Comment est-ce qu'on sait que Dieu peut créer tout cela ? Eh bien, je peux vous donner deux raisons. D'abord, il a créé le monde. Cette même puissance qui a créé le monde est tout à fait capable de créer un nouveau monde, n'est-ce pas ? Mais aussi, Dieu a donné une preuve en ressuscitant Jésus d'entre les morts, en lui donnant un nouveau corps. La résurrection de Jésus est déjà une garantie que Dieu va ressusciter, en quelque sorte, ou recréer le monde entier pour que nous puissions y habiter. Et la nouvelle Jérusalem sera glorieuse. Glorieuse. Vous avez peut-être entendu parler du syndrome de Paris. C'est un vrai syndrome qu'on décrit parmi les touristes, surtout ceux qui viennent du Japon ou des États-Unis. Ils arrivent à Paris, ils ont hâte de voir la ville de Paris, et ils sont tellement déçus, c'est vrai, hein, ils sont tellement déçus par la réalité de Paris, avec voilà, les poubelles, les petites ruelles, le parking est très cher, c'est pollué, c'est pas très beau, voilà, qu'ils sont déçus et ils vivent un choc émotionnel. On appelle le syndrome de Paris. Ils avaient imaginé tout autre chose, la Tour Eiffel, des fleurs, des petits cafés, etc. C'est tout à fait pas aussi charmant qu'ils l'imaginaient. Ça, c'est le choc qu'ils appellent le syndrome de Paris. Eh bien, on ne va pas avoir le syndrome de Paris avec Jérusalem. Quand on arrivera là, on ne sera pas en train de dire oh, c'est plus petit que j'imaginais, c'est pas très beau. Voilà. Regardez comment elle est décrite, verset 2. Préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Et c'est une image qui revient à la fin de notre passage aussi. C'est là où on va s'attarder. Verset 9. Je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Et il montre une ville. Alors évidemment, ce n'est pas une femme et ce n'est pas une ville, c'est un peuple, n'est-ce pas ? Une ville n'est pas habillée comme une mariée, mais c'est une image. Elle descendait du ciel, la ville sainte, d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Elle était éclatante. Quelque chose qui est repris aussi au chapitre 19, cette image du peuple de Dieu comme la mariée. Et qu'est-ce qu'elle porte ? Elle porte le fin lin qui est ses œuvres justes. Alors ça, mes amis, c'est le mariage ultime. Si, dans la nouvelle création, tu ne seras pas marié avec ton époux ou ton épouse actuelle, c'est parce qu'il y aura un vrai mariage qui va prendre sa place. L'aboutissement de tout ce que nous pouvons espérer. Et je sais qu'aujourd'hui, dans la vie courante, tout n'est pas à la hauteur de nos attentes. Tout n'est pas aussi beau qu'on avait espéré, mais là, il y aura autre chose. Dans la vie présente, je sais que nous avons des désirs qui sont légitimes pour notre vie, sinon on ne se lèverait pas le matin, on veut accomplir quelque chose. Et nous sommes un peu comme une voiture avec deux pédales, un accélérateur et un frein. On va prendre une automatique, hein, on ne va pas parler de... un accélérateur et un frein. L'accélérateur, c'est tout ce qui nous donne de l'entrain, de la motivation. On se dit, oui, j'ai envie de faire quelque chose et j'y arrive, j'aimerais faire ça, on se lance. C'est chouette d'avoir cet entrain, n'est-ce pas, dans sa vie. Mais il y a aussi le frein, c'est tout ce qui nous ralentit. Avec le temps, on se rend compte qu'on ne va pas nécessairement arriver à tout ce qu'on avait espéré faire. Nos choix deviennent de plus en plus limités avec le temps. Parce qu'on n'a plus 20 ans et on a fait certains choix qui ont des conséquences et on est là, on est ce qu'on est et on est limité. On se rend compte alors qu'on ne va jamais battre le record des 200 mètres. Où on ne va pas devenir chef d'entreprise, ou lancer une start-up, ou avoir une carrière de top modèle, je ne sais pas pourquoi. Notre vie est limitée, elle est freinée, et nos plans sont frustrés. Et donc si cette vie est tout ce qu'il y a, eh bien oui, c'est un peu déprimant. C'est un peu frustrant. Imaginez deux sœurs, je vais terminer avec ça. Deux sœurs qui grandissent, la même famille, elles ont envie d'avoir la même carrière que papa. Elles se lancent dans des études universitaires. Et pour l'une des sœurs, elle réussit. Elle est première de sa classe. Elle décroche à la fin de ses études le boulot de ses rêves dans l'entreprise. Elle décroche vraiment le rôle qu'elle voulait. Et sa sœur, elle a du mal. Les études ne lui réussissent pas. Elle est distraite. Elle n'arrive pas à réussir ses études. Elle est distraite parce qu'elle tombe amoureuse d'un jeune homme et ils se marient. Quand ses sœurs se retrouvent, que disent-elles ? « Oh, j'aimerais avoir ton succès. » Tu rigoles, moi j'aimerais avoir ton succès. Et dans leur moment à part, elles se demandent « Pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas permise de réaliser mes rêves ?» Rêves de jeunesse, les rêves légitimes que j'avais quand j'étais plus jeune. Et la réponse est « Je ne sais pas. » Mais je sais que dans l'au-delà, ce qui nous frustre maintenant sera quelque chose qui ne nous frustrera plus. Et ce qui nous fait plaisir maintenant, ce qui nous donne de la joie et de l'épanouissement maintenant, sera dépassé par les nouvelles joies que nous aurons. La plus grande joie de la meilleure relation qui existe dans la nouvelle terre. Dieu, par sa présence, comblera tout ce qui nous manque ici, tout ce que nous avons perdu ici. Il nous comblera. Et puis, par rapport à tout ce que nous avons et que nous avons gagné ici, eh bien, là-bas, ce qu'il nous accordera dépassera de loin tout ce que nous pouvons gagner et tout ce dont nous pouvons profiter dans cette vie. Retenons cela, c'est notre avenir. Dieu nous le prépare, soyons prêts. Père Céleste, nous voulons nous remettre simplement devant toi. Tu connais chacun de nous, notre cœur, notre état devant toi. Seigneur, tout d'abord que nous puissions être pardonnés et assurés de la vie éternelle, mais aussi que ceux et celles qui te connaissent puissent se réjouir, parce que ce que tu nous promets là, c'est quelque chose de fort, quelque chose de durable, qui durera pour l'éternité, dont nous pourrons pleinement profiter en ta présence. Oui, le plus important, c'est que tu sois là et que nous soyons dans ta présence. Merci que tout cela changera notre expérience, notre vécu. Nous ne serons plus dans l'amertume, la tristesse, le deuil, mais nous serons dans le contentement, la joie, la reconnaissance et l'adoration pour toujours. Alors Seigneur, conduis-nous, que nous puissions encore persévérer pendant ces années que nous avons sur terre, les années que tu nous réserves avant le retour de Christ ou avant notre départ, mais que nous puissions être prêts dans la sainteté pour la vie que nous avons à vivre avec toi. Amen.